SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Épisode 129 d'Europa Voice. Messieurs, dames, bonjour. Au programme de cette émission, nous allons parler accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, mais aussi la relation bilatérale au beau fixe, semble-t-il, entre la France et l'Australie. C'est tout de suite et comme chaque Europa Voice, c'est avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
On commence avec cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, composé, on le précise, du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Les négociations, Nathanaël, devaient avoir lieu en marge de la COP28, hein, qui se tient actuellement à Dubaï. Mais Nathanaël, eh bien, c'est tout bonnement un échec.
Oui, effectivement, Marianne, l'Europe avait beaucoup travaillé sur cet accord Union européenne-Mercosur. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un accord qui a été négocié simplement ces dernières années. Hein. Ça fait 20 ans que l'Union européenne et le Mercosur essayent de s'entendre pour mettre en place un accord de libre-échange et donc faciliter notamment les échanges commerciaux, d'agriculture, en termes de bovins, de céréales, etc. Et malheureusement, il semblerait que cet accord n'aura pas lieu et que l'élection du président argentin est pour quelque chose dans cet échec de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.
Parce que 20 ans de discussion, c'est énorme. On imagine qu'il y a eu une succession de présidents dans chaque pays depuis tant d'années. Vous avez parlé de l'Argentine. Qu'est-ce qui pêche concrètement? Est-ce que c'est que l'Argentine qui a posé problème dans ces négociations? Est-ce que ça va bien plus loin?
Alors en fait, ça va plus loin, Marianne. C'est-à-dire que même au sein de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas la même vision de cet accord de libre-échange. Il faut peut-être faire un pas en arrière. D'abord, expliquer que de plus en plus, l'Union européenne se doit de mettre en place ces accords de libre-échange, notamment avec les pays du Sud, parce que c'est une nécessité dans un monde où les relations entre les deux grandes puissances sont de plus en plus instables, de mettre en œuvre véritablement économiquement aussi le multilatéralisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un point sur lequel on reviendra quand on parlera de la France et l'Australie. C'est-à-dire qu'on est, on n'est plus dans une opposition de bloc bilatéral, on est dans un monde multilatéral où l'Union européenne se doit de diversifier ces échanges avec ce qu'on peut appeler le Global South, donc ces pays notamment du Sud et le Mercosur. Ça, c'est le premier point. L'Union européenne se doit de convertir, de mettre de plus en plus en place ces accords de libre-échange. Deuxième élément, quand on dit que c'est une vision qui n'est pas la même, c'est une vision qui n'est pas la même entre les différents pays de l'Union européenne, mais c'est même une vision qui n'est pas la même au sein de chaque pays. Si on prend par exemple la France, il y a clairement une opposition entre ceux qui prônent un libéralisme et des accords comme ça entre différentes entités et par exemple le lobby des agriculteurs ou les courants plus de gauche ou vert qui pour eux, ces accords de libre-échange sont d'un véritable contresens. Pour les agriculteurs, parce qu'évidemment il y a un protectionnisme européen et d'ailleurs ce qu'ils mettent en place avec la politique agricole commune et leur réticence par rapport à la politique agricole commune en France, ce qui s'applique à ces accords-là, c'est du même ressort, c'est-à-dire comment est-ce qu'on protège notre agriculture française face à un déferlement de viande bovine sud-américaine. Et pour les Verts, en fait, ces accords de libre-échange sont un non-sens écologique parce qu'ils prennent en compte, évidemment, l'augmentation des gaz à effet de serre et le fait que ces échanges augmenteront nécessairement ces émissions de gaz à effet de serre. La pollution, à un moment, on essaie de la réduire. Et donc, pour eux, c'est un contresens de favoriser de plus en plus un commerce où on fait venir de l'autre bout du monde un morceau de viande. Donc, vous voyez, entre les pays européens qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes exigences face aux pays du Mercosur et au sein même des pays européens où c'est une lutte, un lobby, où par exemple Emmanuel Macron doit faire un jeu d'équilibriste pour à la fois ne pas fâcher les agriculteurs, mais aussi ses alliés du gouvernement. C'est des accords qui sont très, très durs à négocier. Et puis, encore une fois, on est beaucoup habitué en Europe à avoir une absence de frontières physiques pour le commerce de biens, de personnes au sein de l'Union européenne. Mais il faut le rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, dans chaque traité, dans chaque échange qu'il y a entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union européenne, il faut un accord de libre-échange. D'ailleurs, on est en train de négocier un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie au moment où on se parle, Marianne.
Ça, on va en parler dans un instant. On le rappelle, c'est le thème de notre deuxième partie d'Europa Voice. Mais est-ce que de telles complications, ça veut quand même dire que l'Union européenne est un peu en difficulté parce qu'il n'y a pas d'accord avec les USA qui s'étaient isolés sous l'ère Trump. Il n'y a pas d'accord avec la Chine considérée comme trop impérialiste. Maintenant, il n'y a pas d'accord avec l'Amérique du Sud, notamment par l'échec causé en partie par le Brésil et l'Argentine. Est-ce que c'est encore possible de faire des accords de libre-échange de ce type ou c'est devenu trop compliqué?
C'est une très bonne observation, Marianne. Il y aura toujours un leader qui empêchera ces accords de se réaliser. On a mentionné l'élection récente en Argentine. Il y avait eu Bolsonaro au Brésil. Il y a au sein même de l'Union européenne, évidemment, on l'a vu dans les précédents épisodes d'Europa Voice, de plus en plus de leaders protectionnistes, certains d'extrême droite, qui veulent fermer les frontières. Donc effectivement, quand on sait qu'il y a des décisions qui doivent être obtenues à l'unanimité, notamment du côté de l'Union européenne, c'est difficile à 27. Et puis dans le camp d'en face, encore une fois, ils ont aussi des positions qui peuvent être divergentes et une envie de ne pas forcément se plier. Les règles communautaires sont aussi vues de manière très contraignante par des pays qui n'appartiennent pas au bloc européen. C'est aussi ce qui cause les échecs répétés de ces accords de libre-échange et notamment de celui entre l'Union européenne et le Mercosur.
Nathanaël, dernière question sur ce sujet avant de passer à notre deuxième volet. Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi les conséquences de cet échec sur le commerce mondial?
Alors, déjà en termes juste pour donner un peu un ordre de grandeur, pour les Européens, cet accord sur le Mercosur, il était, j'allais dire, économiquement important de par la taille des échanges qui sont concernés, qui seraient concernés par cet accord. On parle, en 2022, on parle de 120 milliards d'euros. Donc, c'est pas peanuts, si on peut s'exprimer ainsi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour l'Union européenne, encore une fois, de diversifier les acteurs avec lesquels elle a des échanges commerciaux au niveau du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des pays, il y a des entités avec lesquelles l'Union européenne arrive facilement ou plus facilement à avoir ces accords de libre-échange, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande. Mais il y a des zones entières où l'Union européenne a du mal justement à mettre en place un cadre pour faciliter ces échanges-là. Parce que la question qui se pose derrière, Marianne, c'est de savoir si en fait les règles en termes de commerce, mais aussi les règles, j'allais dire, sanitaires, les règles en termes d'écologie, est-ce qu'elles sont finalement compatibles, est-ce qu'elles sont conciliables entre des entités politiques si différentes que sont l'Union européenne et le Mercosur. Donc ça, on achoppe aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire que derrière cet accord purement économique, c'est parce que derrière, il y a des questions sanitaires, il y a des questions écologiques, il y a des questions légales de manière plus générale qui font qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et encore une fois, la difficulté, Marianne, qu'on a dans ces échanges-là, c'est qu'il faut à la fois convaincre dans son propre pays, c'est-à-dire qu'aucun leader ne va prendre le risque que ce soit explosif de négocier ces accords-là, mais il faut aussi convaincre les autres pays de l'Union européenne. On a des élections européennes en juin prochain, en juin 2024, donc il est aussi très peu probable que maintenant que cet accord a échoué et qu'il n'ira pas plus loin, que rien ne sera conclu en décembre, que véritablement on s'engage vers une nouvelle feuille de route avant les prochaines élections. Il y a trop de risques d'instabilité, trop de risques de changement, et donc cet accord sera sûrement remis aux calendes grecques.
Affaire à suivre donc, et bien évidemment, ces élections européennes, il en sera question dans un prochain épisode d'Europa Voice. Merci beaucoup, Nathanaël. Messieurs, dames, restez sur SBS French. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant pour notre deuxième sujet. À tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Europa Voice, épisode 129, on retrouve Nathanaël Bloch et on attaque avec ce sujet la relation bilatérale entre la France et l'Australie. Nathanaël, les deux pays semblent de nouveau avancer main dans la main. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en visite express en Australie durant 2 jours, 48 heures, aux côtés de son homologue Penny Wong. Objectif, refonder la relation. On va pas se mentir, Nathanaël, relation ternie en 2021 et que les deux gouvernements s'efforcent à reconstruire progressivement depuis 18 mois.
Alors Marie, effectivement, en l'espace de 2 ans, on a vécu toutes les étapes d'une relation bilatérale qui était au beau fixe et qui, avec cet accord, qui volent en éclats sur les sous-marins. Il faut se le rappeler, hein, quand même, il y a 2 ans de cela, Paris rappelait son ambassadeur, ce qui est quand même un signe en termes de diplomatie et de relations bilatérales entre les pays qui sont très forts. C'est-à-dire que Paris demande à son ambassadeur de quitter l'Australie, de revenir en France. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la France n'a plus de présence officielle en Australie. Et là, on parle d'il y a 2 ans de cela. Le président Emmanuel Macron, à cette époque, avait traité le premier ministre australien, à l'époque c'était Scott Morrison pour les libéraux, pardon, enfin les Liberals en anglais, de menteur. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avait parlé d'un coup de couteau dans le dos. Donc on était vraiment dans un moment compliqué. Et puis s'est passé l'arrivée, un changement de gouvernement aussi en Australie, l'arrivée des travaillistes et du premier ministre Anthony Albanese, et la reconstruction petit à petit d'une nouvelle relation bilatérale avec la France. Et puis cette visite de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, et son homologue Penny Wong ici, qui, d'une certaine façon, ferme la page compliquée entre la France et l'Australie. Avant, on pouvait penser que c'était encore un peu de façade quand c'était Emmanuel Macron qui avait accueilli son homologue. Là, véritablement, on le voit, hein, les deux acteurs veulent repartir sur une nouvelle relation constructive, faire table rase de ce qui s'est passé ces 2, 3 dernières années, même s'ils ne le disent pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un signal qui est fort. Et puis, c'est de la réelle politique aussi, Marianne. C'est-à-dire que les deux ont besoin de cette relation bilatérale, notamment dans cette zone indo-pacifique dont il a été beaucoup question pendant cette visite de Catherine Colonna.
Quelles annonces concrètes ont été prononcées? C'est quoi ce nouvel accord qui va être mis en place entre la France et l'Australie?
Marianne, il y a eu 3 piliers, d'ailleurs, qui ont été repris dans la déclaration conjointe des 2 ministres. Il y a 3 piliers sur lesquels les 2 nations veulent avoir ce partenariat qu'ils ont eux-mêmes qualifié de renouvelé et d'ambitieux. Il y a d'abord la défense et la sécurité. C'est une attention à peine cachée par rapport aux velléités chinoises dans cette région indo-pacifique et par rapport à l'instabilité en mer de Chine méridionale. Donc, défense, sécurité, premier pilier. Il y a la lutte contre le changement climatique. Et on le sait, hein, il y a beaucoup de coopération entre la France et l'Australie, entre les universités françaises et les universités australiennes. Et puis, on voit, hein, même au niveau australien, avec la montée des mers et certaines îles qui commencent à être sérieusement menacées d'être englouties dans le Pacifique, c'est véritablement un problème majeur auquel l'Australie et la France doivent se confronter. Et puis, le dernier pilier après, donc défense, sécurité, premier pilier, lutte contre le changement climatique, deuxième pilier, troisième pilier, Marianne, l'éducation et la culture. Sur celui-là, j'allais dire, ça a toujours été au beau fixe, mais c'est véritablement un renforcement de ces échanges-là entre les universités. La ministre a été reçue à la NGV, qui est un des grands musées de Melbourne. Elle a décoré un des pontes de la NGV. Donc voilà, pour ce volet-là, ce troisième volet d'éducation et de culture, c'est véritablement au beau fixe et on continue à renforcer ce soft power dans les prochaines années.
Mais Nathanaël, vous parliez de réel politique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de poudre aux yeux dans tout ça? Parce que donc les annonces ont été suivies d'actions immédiates. Les annonces ont été faites à Canberra et le lendemain, donc vous l'avez dit, Catherine Colonna s'est déplacée à Melbourne. Le matin, elle a annoncé la FACET, un partenariat pour la transition écologique, et l'après-midi à la NGV, elle a annoncé la FACEF, une fondation pour la culture. Tant il y a de l'argent qui a déjà été investi dans la FACEF, donc vous l'avez dit, cette relation éducation-culture, elle a toujours plus ou moins été au beau fixe. Pour ce qui est de la transition énergétique, ça a été annoncé, mais derrière, il n'y a même pas de financement. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de poudre aux yeux et beaucoup d'annonces?
Je crois pas, je crois vraiment que moi, ce qui m'a, dans la déclaration conjointe, si on reprend pour le coup les mots officiels des 2 ministres, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le cheminement intellectuel. C'est-à-dire que première partie du discours, c'est la France et l'Australie qui condamnent sans équivoque les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre dernier, qui rappellent le droit d'Israël de se défendre, mais qui rappellent aussi la nécessité du respect du droit international humanitaire. Enfin, en gros, il y a d'abord un focus sur ce qui se passe au Proche-Orient. Deuxième focus de cette déclaration, c'est ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et pareil, France et Australie ont la même ligne, c'est-à-dire une condamnation sans équivoque de la guerre provoquée par la Russie contre l'Ukraine. C'est le mot utilisé par cette déclaration conjointe. Et en fait, de manière assez naturelle, donc après le Proche-Orient, après la Russie et l'Ukraine, vient l'Indo-Pacifique et la Chine. Et donc l'idée, c'est aussi un peu de dire que la France et l'Australie doivent travailler ensemble pour que ne se retrouvent pas dans cette zone Indo-Pacifique et en Chine méridionale avec ce qui se passe à Taïwan, ne se retrouvent pas des situations comme on est en train de devoir les gérer à la fois au Proche-Orient et en Ukraine et en Russie. Et moi, je trouve ça intéressant parce que C'est véritablement anticiper aussi, mettre en place ces coopérations-là pour que justement il y ait un cadre de paix ou un cadre de stabilité, c'est les mots aussi qui sont utilisés par les ministres dans cette déclaration, un cadre de stabilité qui puisse faire que voilà, la zone Indo-Pacifique soit une zone préservée de tout conflit et encore une fois de toute velléité expansionniste chinoise. Il faut le rappeler aussi, hein, quand l'Australie avait regardé Marianne il y a quelques mois, d'un œil extrêmement attentionné, le référendum en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le référendum en Nouvelle-Calédonie donnait aux indépendantistes raison, et donc que la Nouvelle-Calédonie, d'une certaine façon, devenait indépendante, cette île serait lorgnée très activement par les Chinois à cause des ressources dont tout le monde a besoin en ce moment, des minerais critiques, le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, parce que c'est ce qu'on utilise dans toute notre petite machine aujourd'hui. Et donc, c'est là aussi il est l'enjeu. Il est l'enjeu de comment est-ce que dans cette partie du monde où on a plein de confettis qui appartiennent à différents pays, soit qui sont ou qui sont indépendants, qui appartiennent à la France, etc., comment est-ce qu'on fait pour assurer cette stabilité? Et encore une fois, c'est une réponse vraiment à l'expansionnisme chinois. Rappelons-le aussi, hein, sur les îles, là on a parlé à la Nouvelle-Calédonie, sur les îles Salomon, il y a quelques mois, Marianne, la Chine s'était proposée d'être une force de maintien de l'ordre si jamais il y avait besoin sur cette île. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est une puissance étrangère qui va proposer à un autre pays de maintenir l'ordre si jamais il y avait besoin. Et donc, la France et l'Australie se doivent vraiment d'assurer cette stabilité dans cette région-là. Donc, je ne pense pas que ce soit que des vœux pieux, je pense vraiment qu'on essaye par tous ces moyens-là, par tous les vecteurs, ça peut être la sécurité, ça peut être la lutte contre le changement climatique, ça peut être les projets de coopération, ben, de gérer au mieux et de garantir cette stabilité dans cette zone Indo-Pacifique. Zone Indo-Pacifique, Marianne, rappelons-le, qui a été un des premiers thèmes importants de Emmanuel Macron, mandat numéro 1. C'était cet axe Indo-Pacifique qui va de Paris à Canberra en passant par New Delhi. Donc en gros, une nouvelle route de la soie pour éviter la Chine.
Mais c'est très intéressant que vous parliez de la Nouvelle-Calédonie et de toutes ces îles dans la région Indo-Pacifique, parce que je pense qu'il est aussi important de rappeler, quand on parle de la France, on a tendance à immédiatement penser à l'Hexagone, mais en fait l'Australie a des milliers de kilomètres de frontières en commun avec des pays francophones directement via les océans. Je voulais aborder un autre point, Nathanaël, toujours sur ce sujet. À Canberra, va y avoir un changement d'ambassadeur. Notre ambassadeur actuel, Jean-Pierre Thébault, quitte ses fonctions. Ça a fait farewell, son pot de départ hier soir à Canberra. On a un nouvel ambassadeur, Pierre-André Humbert, qui arrive dans quelques semaines. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ce changement de diplomatie?
C'est une bonne question, Marianne, et comme d'habitude, difficile de lire. Enfin, on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Voice. D'une certaine façon, il y a aussi un symbole, c'est-à-dire que l'ambassadeur qui part est l'ambassadeur qui a été rappelé d'ailleurs par Paris, qui a dû affronter ses difficultés lors de l'affaire des sous-marins. Donc, d'une certaine façon, ce nouvel ambassadeur, c'est aussi une manière de, plus que symboliquement, tourner la page et d'acter ce nouveau départ en termes de relations bilatérales. Et donc, je pense, encore une fois, sans avoir sa feuille de route en face des yeux, je pense qu'il arrive dans un cadre apaisé, dans un cadre, il va arriver quelques jours après cette visite de Catherine Colonna et ce nouveau partenariat que je cite encore une fois, renouvelé et ambitieux. Donc, on lui souhaite bonne chance à ce nouvel ambassadeur et on espère justement qu'on va réussir à retrouver cette relation France-Australie qui était au beau fixe, encore une fois, avant 2021 et avant cette histoire des sous-marins.
Eh bien, merci beaucoup, Nathanaël. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Europa Voice.
Merci beaucoup, Marianne.
C'était l'épisode numéro 129 d'Europa Voice. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.